Et le journal est présenté par Thomas Larabie. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Vous comptez peut-être vous rendre dans un des 17 000 lieux ouverts ce week-end pour les journées du patrimoine. Eh bien pour la première fois, l'accès à certains bâtiments a été annulé pour des raisons de sécurité. Car entre les manifestations de gilets jaunes, les mobilisations pour le climat ou contre la réforme des retraites, les autorités craignent des débordements. Un beau symbole du relief politique pris par le patrimoine, déclaré cause nationale par le chef de l'État l'an dernier. Les explications de Morgane Klein-Refait.
Plusieurs institutions préfèrent garder porte close à Paris aujourd'hui. Celle du ministère chargé des relations avec le Parlement, par exemple, qui avait été enfoncé en janvier par des gilets jaunes. Même chose pour l'Arc de Triomphe saccagé en décembre lors d'une manifestation. Des messages à prendre en compte, estime Célia Véro, directrice de la Fondation du patrimoine.
Des lieux de centralité situés à Paris qui représentent voilà, une France un petit peu prestigieuse où se concentre le pouvoir, l'argent, etc. Et ben, certaines personnes en France, le vivent avec distance et ont envie qu'on leur rende aussi de l'attention, des moyens, des capacités d'accéder à ce genre de culture. Donc, il faut entendre ce message et justement essayer de valoriser aussi ce qui se passe chez eux.
Car en parallèle, il y a un engouement pour les bâtiments menacés, 50 millions d'euros récoltés l'an dernier. Et l'exécutif voudrait bien en faire un outil, selon l'historien Jean Garrigue.
Ça peut faire partie d'une communication visant justement à rassembler. Le meilleur exemple, évidemment, c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron, tout de suite, a réagi. Il a même réagi deux fois. Donc, il y a quelque chose là qui montre bien à quel point ces éléments patrimoniaux peuvent être des éléments d'une communication présidentielle, peuvent être des éléments qui font rassemblement. On l'a vu, il y a eu, au-delà même d'ailleurs de l'intervention d'Emmanuel Macron, un réflexe d'union nationale, d'unité nationale.
Et ça peut être une force, restaurer et préserver le patrimoine, c'est un des rares chantiers du gouvernement à faire consensus.
Les explications de Morgane Klein-Refait. Et aujourd'hui, la préfecture de police de Paris a mis les petits plats dans les grands. Le dispositif de sécurité sera similaire à celui déployé le 1er mai dernier, selon le préfet de police de Paris, avec 7500 policiers et gendarmes, des canons à eau et des véhicules blindés. Dans les rues de la capitale, les jeunes continueront également ce samedi de marcher pour le climat. Hier, 4 millions de personnes ont manifesté à travers le monde, selon les organisateurs, avec des rassemblements à San Francisco, Sydney, Berlin ou encore Londres. 250 000 personnes ont défilé dans les rues de New York autour de Greta Thunberg. Il crie au procès politique. 3 mois de prison avec sursis ont été requis contre Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire des perquisitions des locaux de la France Insoumise. Une perquisition en octobre 2018 émaillée d'incidents qualifiés d'actes de résistance violente par le parquet. Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre. Au Royaume-Uni, c'est l'ouverture aujourd'hui du congrès annuel des travaillistes sur fond de Brexit, avec un risque réel d'éclatement de la gauche. Plusieurs cadres et des milliers de militants veulent que le parti se positionne clairement contre la sortie de l'Union européenne. Mais Jeremy Corbyn, leur chef de file, refuse toujours de choisir son camp, Antoine Gignot.
C'est une question de démocratie, explique Clive Lewis, député de Norwich. 90% des militants sont contre la sortie de l'Union européenne. Le parti travailliste doit les soutenir. Notre formation politique, dit-il, doit dire clairement que nous sommes opposés au Brexit. De fait, les adhérents du parti de gauche ont ces derniers jours déposé près de 80 motions dans tout le pays qui pointent le manque de clarté de la stratégie de Jeremy Corbyn. Après 3 ans et demi d'hésitation, le chef de file de la gauche considère désormais qu'un deuxième référendum est nécessaire, mais soutenu par les syndicats, il refuse toujours de se positionner clairement pour ou contre le Brexit, malgré les appels répétés d'une partie des cadres de la gauche. John McDonnell, Diane Abbott, Keir Starmer ont peur de voir les électeurs opposés à la sortie de l'Union européenne rallier le parti libéral-démocrate qui se présente depuis le début comme un parti anti-Brexit. L'an dernier, en surfant sur la débâcle de Theresa May, les travaillistes ont réussi à limiter la casse et à garder un semblant d'unité. Mais les élections européennes du printemps dernier ont mis en lumière les dissensions. Le Labour n'a obtenu qu'un peu plus de 14,5% des suffrages. Il joue désormais sa survie politique.
Une correspondance depuis Londres d'Antoine Gignot. Cette nuit, les Égyptiens ont retrouvé la rue. Au Caire, à Alexandrie et dans plusieurs villes du pays, ils étaient des milliers à se rassembler pour exiger le départ du président Al-Sisi. Des manifestations extrêmement rares car interdites par le régime mais rendues possibles par les réseaux sociaux. Depuis la publication il y a 2 semaines de vidéos accusant le président et l'armée de corruption, la grogne monte, notamment sur Twitter. Des slogans anti-Sissi et des appels à manifester ont ainsi été partagés des centaines de milliers de fois. Et malgré le déploiement des forces de l'ordre dans le centre de la capitale, c'est bien là qu'a d'abord éclaté ce vendredi de la colère. Une correspondance de Martin Roux.
Le peuple veut la chute du régime. Ils sont plusieurs centaines à bloquer cette rue du centre de la capitale et à reprendre ce slogan révolutionnaire qui peut pourtant leur valoir la prison et la torture. Ce sont majoritairement de jeunes hommes et les passants, parfois des familles, se joignent à eux. Pacifique, pacifique, reprennent-ils aussi à l'image des mouvements populaires en Algérie et au Soudan. Mais cette scène ne dure pas plus de 10 minutes car très vite le cortège se disperse, visé par des tirs de gaz lacrymogène. Puis des dizaines d'hommes en civil munis de bâtons s'abattent sur ces manifestants pour tabasser à plusieurs ceux qu'ils interpellent. Depuis 20h hier soir et le premier cortège formé brièvement sur la place Tahrir, les rues de la capitale n'ont pas désempli jusque tard dans la nuit. Des manifestants ont bien été embarqués par dizaines et les fourgons blindés des forces anti-émeutes déployés massivement. Mais durant de longues heures, au rythme des attaques de la police, ces attroupements se sont déplacés et reformés de rue en rue. Des manifestations qui s'étendaient bien au-delà du centre du Caire, dans les quartiers populaires, mais aussi à Alexandrie ou encore à Mansoura, dans le delta du Nil. Un mouvement d'une ampleur jamais vue depuis 2016 et des manifestations contre la cession de deux îles de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. Si l'issue de ce vendredi de la colère est encore incertaine, en bravant l'interdiction de manifester, les Égyptiens semblent être parvenus cette nuit à faire tomber la barrière de la peur.
Et alors que ce mouvement de contestation gagnait les rues du Caire, hier soir, le président Sissi s'envolait lui vers New York, où il doit s'adresser mardi à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Quelques mots de la météo, du soleil aujourd'hui à l'exception de la Nouvelle-Aquitaine et du pourtour méditerranéen. Ils auront le droit à quelques gouttes de pluie et surtout quelques éclairs. L'Hérault est placé en vigilance orage par Météo France à partir de 11h. Côté température, comptez 20 à Strasbourg et Brest, 27 à Ajaccio et 28 à Bordeaux.